Bonsoir. On a dit que René était romancier, essayiste. Il est également biographe et biographe avant d'avoir fait cette biographie de Moravia qui est une véritable somme. Biographe, entre autres, de Callas et de Pasolini. Et c'est vrai que ce n'est peut-être pas sur Moravia qu'on l'aurait attendu absolument comme biographe, puisque je crois savoir que, bon, bien qu'il l'ait rencontré, il va vous dire un peu ces choses-là, qu'il l'ait rencontré et qu'il l'ait traduit, ce n'est pas a priori quand même un coup de foudre littéraire absolu au départ. Et je crois avoir compris que c'est peu à peu que tu avais... nous nous tutoyons. On se connaît depuis longtemps, donc on va pas faire semblant de se vouvoyer. Et puis on se tutoie à l'italienne en plus, comme ça. Bref, je crois savoir que tu as découvert cet auteur, en fait, peu à peu, ce qui est peut-être une chance d'ailleurs pour la biographie aussi, enfin pour ton analyse, je veux dire, des livres, car il y a de nombreuses analyses des livres de Moravia dans ce livre.
Oui, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé à traduire Moravia, j'ai commencé par le traduire au début des années 80. Moravia, pour moi, n'était pas l'écrivain vers lequel j'allais le plus naturellement, même si, comme tous les Français, enfin beaucoup de Français qui ont appris l'italien, Moravia était parmi mes premières lectures, parce que Moravia a un style extrêmement fluide et un vocabulaire qui n'est pas très riche et qui donc pour les lecteurs étrangers est une grande chance. Et il a une très grande clarté de style. Mais je le connaissais assez mal et je me rappelle que quand on m'a proposé de traduire Moravia, c'est les éditions Flammarion qui m'ont demandé de traduire Moravia, c'était un recueil de nouvelles érotiques qui s'appelle La Chose, La Cosa, et le traducteur qui avait été pressenti avait refusé de traduire La Cosa. Il m'avait dit, je le connaissais, il m'avait dit c'est vraiment pas bon et c'est pas pour un traducteur quelque chose de très gratifiant. Et moi, quand j'ai lu les nouvelles érotiques, je me suis rendu compte que c'était bien autre chose que de simples nouvelles érotiques. C'était une réflexion sur la sexualité qui était extrêmement profonde et sur les rapports humains, et que ça dépassait le genre. Et peu à peu, j'ai eu un très bon contact avec lui, comme il venait à Paris régulièrement, et que nous avions un ami commun qui était Alain Elkann, qui sera d'ailleurs son dernier grand ami, avec qui il écrira son autobiographie, puisque Moravia a fait sa propre autobiographie parlée avec Alain Elkann. Et donc le fait que je connaissais aussi cet ami nous a rapprochés, et j'ai beaucoup traduit, et au fond je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'écrivains que je traduisais avec qui j'avais des rapports, je veux dire, intellectuels et amicaux, et c'était le cas avec Moravia, dont j'ai beaucoup admiré l'envergure intellectuelle, l'intérêt surtout pour le monde politique et littéraire, l'extrême curiosité. J'étais allé le voir à Rome et je m'étais rendu compte qu'il connaissait très très bien sûr la littérature de ses contemporains, mais même les jeunes écrivains, et pas uniquement les jeunes écrivains italiens, mais les jeunes écrivains français aussi. Et donc évidemment pour moi c'était aussi très agréable, parce que je savais qu'il lisait mes livres, et ce qui n'était pas si courant que ça, surtout un écrivain de cette envergure et de cette notoriété ne lit pas nécessairement les livres qu'écrivent ses traducteurs, si ses traducteurs sont en même temps écrivains. Et donc finalement il y a quelque chose qui s'est produit. Il y avait un autre élément très important, qui était l'amitié que Moravia avait pour Pasolini. Moi j'avais une très grande passion pour Pier Paolo Pasolini. J'avais à ce moment-là, je traduisais beaucoup et j'ai continué à traduire par la suite. Et cette amitié entre Pasolini et Moravia était extrêmement étonnante, comme ça, de manière un peu superficielle. Parce que le monde de Pasolini et celui de Moravia ne sont pas si proches que ça, apparemment. en réalité, ils sont en profondeur beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Ils avaient tous les deux, enfin bon, on va en parler, ils avaient tous les deux un refus de certaines conventions, disons, sociales. C'était tous les deux des rebelles à leur manière. Et donc, le lien s'est fait aussi à travers mon admiration pour Pasolini et la profonde amitié que Moravia avait pour Pasolini. Quand j'ai rencontré Moravia, c'était en 82-83, donc Pasolini était mort depuis très peu de temps, il était mort depuis 7 ans, et ça a été, bon, je l'ai approfondi un peu dans mon livre, la mort, l'assassinat de Pasolini a été pour Moravia une véritable tragédie. C'était son meilleur ami, et sa vie a vraiment basculé de manière très très dramatique, au moment de, pas uniquement parce qu'un ami proche est assassiné, bien entendu c'est une horreur, mais aussi pour tout ce que ça représentait de l'histoire de l'Italie, qu'un écrivain comme Pasolini puisse être assassiné, et surtout de quelle manière l'assassinat de Pasolini a été considéré, traité par les médias et par les tribunaux. Parce que le grand scandale a été évidemment la manière dont le procès a été fait de l'assassin qui, sans être acquitté, n'a pas été acquitté quand même, mais tout ça a été liquidé de manière très très désinvolte. Donc voilà, c'était aussi le lien. Alors en écrivant ce livre, en traduisant surtout d'autres livres de Moravia, jusqu'à sa mort et après sa mort, puisqu'il est mort en 90, et j'ai continué à le traduire après sa mort pour des textes qui avaient été négligés par ses traducteurs, pas de simple oubli parfois, ou qui avaient été écartés. Et là, j'ai pu voir les différentes phases de Moravia, et notamment, bien sûr, le Moravia le plus intéressant, qui est celui des nouvelles. C'est un très très grand nouvelliste, et des années de l'immédiat après-guerre, de la guerre et de l'immédiat après-guerre, où là on voit l'envergure de l'écrivain.
On reviendra peut-être sur Pasolini, on reviendra sûrement sur Pasolini, et aussi sur la réaction ou les réactions successives, les analyses successives qui sont très intéressantes, que fait Moravia intéressante. Le terme n'est peut-être pas bien choisi, que fait Moravia sur cet assassinat. Mais pour l'instant, peut-être on peut encore repartir en arrière, parce que, en fait, Moravia se distingue, j'allais dire, par deux choses qui sont à la fois, chose rare, une très grande précocité et une grande longévité. C'est relativement rare, finalement. Et je pense qu'il serait bien de parler peut-être des origines, même s'il disait détester son passé, mais enfin, il n'aimait pas revenir sur lui-même d'autrefois, mais évidemment, n'empêche qu'il y a eu des choses fondatrices dans sa jeunesse, dans sa très grande jeunesse et sa jeunesse. Il dit lui-même, en répondant en 49 à Prezzolini, je me limiterai à dire que les expériences importantes de ma vie sont au nombre de deux, la maladie qui me retint au lit pendant 5 ans et le fascisme qui couvrit 20 années de ma vie. Et ça, je pense en effet que ce sont en réalité des expériences qui sont déterminantes pour sa vie entière.
Oui, c'est-à-dire que le statut de Moravia est complètement exceptionnel dans la littérature italienne. Moi, je reviens d'Italie, et en Italie, j'ai dit dans une interview que j'estimais que Moravia était le plus grand romancier italien. Et bon, immédiatement, il y a eu des protestations de tous côtés, parce que Moravia n'a pas bonne presse partout. Et en Italie, il a été tellement écrasant de son vivant qu'on continue à protester de son omniprésence. Mais quand je dis que c'est le plus grand romancier italien, je veux dire c'est le plus grand écrivain qui a choisi le roman pour s'exprimer, pour qui la forme romanesque était essentielle. Je ne dis pas que c'est le plus grand écrivain dans l'absolu, mais je mets plus haut Elsa Morante, plus
comme
haut
lui.
Comme lui, comme lui-même, plus haut Pasolini. Mais en tant que romancier, je pense que c'était un phénomène exceptionnel. Alors, il est né en 1907, il est mort en 1990, il a donc traversé tout le siècle. Et naissant en 1907, ce qui est important, c'est que il est, au moment où il entre dans l'âge adulte, il est en plein fascisme. Et donc, le fait de commencer à publier sous le fascisme va être complètement écrasant pour lui. Et comme tu l'as dit, ayant été tuberculeux, donc il a eu une tuberculose osseuse qui a été très mal soignée et qui l'a immobilisé, puisqu'il a eu, ayant été mal soigné, on a commis l'erreur de mettre dans le plâtre sa hanche, qui a aggravé sa maladie. Et heureusement, il a été sauvé in extremis. Et donc, il a été dans un sanatorium à Cortina d'Ampezzo. Et là, ça a été une chance extraordinaire parce qu'il a échappé au lycée. Et ça peut être en tous les cas, pour certains individus, une chance, parce qu'il s'ennuyait terriblement, comme souvent, et il a pu accélérer son propre apprentissage. Et par ailleurs, il a écrit, ce qu'il n'aurait pas fait, évidemment, s'il avait été un adolescent obligé de faire des devoirs, apprendre des leçons, etc. Et donc, il a été d'une précocité exceptionnelle, et comme toujours, quand on écrit très jeune un livre, il a dit des choses qu'il n'avait pas vécues, mais qui montraient sa faculté d'analyse exceptionnelle, pas uniquement sur ce qu'il allait raconter, mais c'est ça qui est phénoménal chez Moravia, mais sur un état politique général. Son premier roman, Les Indifférents, il l'écrit donc à 17 ans, et il raconte, je pense que certaines personnes, en tout cas, l'ont lu ici, il raconte l'histoire d'une famille, et en fait, c'est comme une tragédie. C'est une femme qui vient de perdre son mari, qui est avec ses deux enfants, et les deux enfants vont vivre, comme dans une tragédie, leur sexualité avec l'homme et la femme qui sont le plus proches de la mère, c'est-à-dire l'amant de la mère. La fille va devenir la maîtresse de l'amant de sa mère, et le garçon va devenir l'amant de la meilleure amie de sa mère. C'est une situation en fait tragique, c'est comme un inceste transfiguré. Et évidemment, ce roman a fait scandale, comme on peut imaginer. On l'a trouvé extrêmement morbide, et Moravia immédiatement s'est expliqué et a dit qu'il est en train de décrire une sorte de décadence de la bourgeoisie, une hypocrisie de la bourgeoisie, et qu'il faisait à travers cette famille le procès de toute une culture qui était la culture sous le fascisme en réalité, et qu'il était en train de décrire aussi une sorte de décadence de l'Italie. Il n'imaginait pas que ce roman aurait un tel retentissement. Ce roman, il l'a écrit, donc, comme je le disais, dans son sanatorium. Il a été refusé par les éditeurs auxquels il l'a proposé, qui ont vu ce garçon qui envoyait un manuscrit qui était sans ponctuation. Il avait écrit, c'était un seul flot, sans point et sans virgule. Il a mis la ponctuation après, et finalement le livre a été publié à compte d'auteur. C'est son père qui a payé, comme pour Proust, c'était un compte d'auteur, le livre, et qui Moravia n'imaginait pas. Il était content d'avoir publié le livre, mais il n'imaginait absolument pas le retentissement qu'il allait avoir. Il était à ce moment-là dans une histoire sentimentale avec une Française qu'il avait suivie en France, et c'est à son retour en Italie qu'il a appris que le livre avait constitué un événement inimaginable, parce que, entre autres, un très grand critique, Giuseppe Borghese, a vu immédiatement la qualité extraordinaire et novatrice de ce livre, et peu à peu il a été suivi par beaucoup d'autres critiques. Tous n'ont pas été positives, mais ça a été en tous les cas un très grand événement. Et on est sous le fascisme, on est en 1929, et Moravia est juif. Ça faisait beaucoup, c'est-à-dire le fait qu'il écrive des romans dérangeants, scandaleux, où la sexualité est au centre et présentée de manière assez morbide, et en même temps il est juif, les lois raciales ne vont pas tarder à tomber, et Moravia va être au cœur de l'histoire nécessairement, parce qu'il va être victime d'une répression de manière ambiguë, parce que on ne l'interdit pas complètement. Et après, ça lui sera reproché. On dira que finalement, il n'a pas été un opposant au régime si dérangeant que ça, puisqu'il a continué à publier. C'est vrai, il a continué à publier, mais avec interdiction à la presse de parler de ses romans, parce qu'il était juif et qu'on ne devait pas parler d'un écrivain juif dans la presse fasciste, et interdiction de réimprimer ses livres, ce qui va avoir des conséquences évidemment financières très importantes pour lui, parce que comme les premiers tirages sont très faibles, évidemment il ne pouvait pas vivre, même si les livres avaient du succès et étaient épuisés, comme il n'était pas réimprimé, il ne pouvait pas vivre de sa plume, et ça a eu des conséquences parce qu'il a dû devenir journaliste. Et donc il est devenu grand reporter, ce qui a été finalement aussi une chance pour lui, parce que ça a ouvert considérablement son monde et sa curiosité. Il a voyagé immédiatement à travers le monde.
Oui, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, auxquelles je pensais pendant que tu parlais, parce que il y a en effet cet aspect, ce double aspect de l'écriture de Moravia, c'est-à-dire écriture romanesque et écriture d'articles et de témoignages sur ce qu'il voit à travers ses voyages. Variété de monde traversé, enfin non seulement pays, mais d'un point de vue social, puisqu'il y a un côté mondain aussi chez Moravia, notamment quand il va à Londres, assez tôt d'ailleurs. Bon, tu parlais de son rapport au fascisme qu'il faut peut-être préciser encore, puisque il y a eu vraiment, moi j'ai entendu des choses complètement aberrantes hein, dites sur Moravia qui aurait été fasciste, etc. Il n'y a pas eu d'engagement à proprement parler, c'est vrai, et notamment ça le séparait en quelque sorte de ses cousins Rosselli qui ont vraiment payé de leur vie un engagement, lui, politique, enfin militant, seulement par tout ce qu'il était, ce qu'exprimaient ses livres, de façon, enfin, comme tu l'as dit, et de façon très manifeste, il avait en quelque sorte choisi son camp. Il était viscéralement antifasciste. Mais je crois qu'il faut peut-être un peu préciser, parce qu'en effet, il y a eu des, bon, c'est peut-être secondaire, mais malgré tout, il y a eu quand même des lettres écrites par Moravia, notamment à Ciano, et il a fait en sorte de pouvoir continuer à publier quand même dans des conditions en effet très difficiles. Il y a encore autre chose peut-être, c'est à la fin son activité de scénariste qui engage vers ce qui va être une des choses qu'il faut traiter de façon multiple, d'ailleurs multiforme par rapport à Moravia, qui est le cinéma. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais peut-être tu peux préciser encore quant à cette période fasciste.
Alors,
du fascisme.
Bien sûr, le problème, comme je le disais, Moravia a été l'objet d'un procès continuel. Donc, surtout quand il a eu beaucoup de succès, un procès, je veux dire, d'un procès intellectuel, bien entendu, pas un procès juridique. Pourquoi ? Parce qu'il était devenu une figure énorme après la guerre. Et donc, on lui a reproché un certain nombre de choses. On a commencé à s'interroger qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre, avant la guerre et pendant la guerre. Avant la guerre, en effet, pour pouvoir continuer à être publié, donc il publie Les Indifférents, les Ambitions perdues et La Mascherata et L'Imbroglio, qui est un recueil de nouvelles. Et ça, c'est jusqu'à la guerre, disons. Hein. La Mascherata, c'est déjà le début de la guerre. Et pour pouvoir continuer à publier ces textes, il demande l'autorisation à Mussolini et à Pavolini, Alessandro Pavolini, qui était le ministre de la Culture et de la Propagande. Et j'analyse longuement la lettre qu'il a écrite aux officiels du régime, lettre tout à fait extraordinaire, où il explique qu'il n'est pas un danger pour le régime. Et moi, je rapproche dans mon livre cette lettre de la défense qui a été faite de Madame Bovary. Quand Madame Bovary a été poursuivie, son avocat a fait une extraordinaire défense pour montrer que finalement Flaubert n'était pas immoral, puisqu'il montrait qu'une femme qui se conduisait de manière immorale finalement arrivait à se suicider. Et c'était très pervers, évidemment, très retors de la part du mais très intelligent, puisque en effet le livre a été permis, n'a pas été poursuivi. Madame Bovary a été acquittée. Moravia a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il a fait une analyse de ses propres livres en disant mais je ne suis pas du tout un danger pour votre morale fasciste, puisque je montre des individus qui sont dans une situation de perversion et finalement ils sont extrêmement malheureux et ça ne veut pas dire que j'approuve leur conduite. Bon, c'est évidemment une position très ambiguë, mais qui était extrêmement intelligente. Et Moravia, en effet, donc comme je vous le disais, n'a pas été interdit. Mais on a retrouvé des lettres, des commentaires de de Mussolini disant « Moravia va bene ». Ça n'a pas de problème. Ce qui, évidemment, après, quand on ressort ça et qu'on voit Mussolini disant ça, on dit « il y a un problème ». Enfin, je veux dire, il y a un problème dans le rapport de Moravia avec le fascisme. En réalité, on a retrouvé un télégramme de Pavolini qui était envoyé à la presse et disant qu'il fallait absolument empêcher de parler de Moravia. Donc, il y avait quand même un problème. L'autre chose qui a été dit contre Moravia, c'est que le frère de la mère de Moravia, sa mère était une, s'appelait Gina de Marsanic, c'était une femme d'origine dalmate, et son frère, Augusto de Marsanic, était un notable du régime, c'était un fasciste. Et il est vrai que l'oncle de Moravia a protégé Moravia, a essayé d'adoucir les représailles qui auraient pu être faites contre lui. Donc c'est vrai. L'autre problème, c'est l'attitude de Moravia avec ses cousins Rosselli. Donc ses cousins germains, Rosselli du côté de son père, la sœur de son père s'appelait Amelia Rosselli, Pinkerle Rosselli, c'était un écrivain de grand prestige elle-même, et ses deux enfants, Carlo et Nello, étaient des militants antifascistes extraordinairement engagés et qui se réfugieront en France où ils essaieront de s'opposer au régime de l'extérieur comme beaucoup l'ont fait, beaucoup d'Italiens militants antifascistes l'ont fait. Moravia était très proche d'eux et ils ont été, mais il n'a pas lui-même participé bien sûr à leur activité politique et ils ont été assassinés et Moravia n'a pas réagi publiquement à l'assassinat des frères Rosselli en 1937. Ils ont été assassinés par la cagoule, c'est-à-dire l'extrême droite française, qui était de mèche avec les services secrets fascistes. Et comme vous le savez, Moravia reviendra plus tard sur cet assassinat dans Le Conformiste, où il donnera une version assez particulière de l'assassinat de ses cousins, qu'on lui reprochera également. Mais c'est un problème. Alors, j'ai parlé avec Dacia Maraini, qui est la deuxième femme de Moravia, à propos de l'attitude de Moravia, donc en 1937. Et elle m'a dit, c'était un écrivain, il voulait continuer à écrire, il ne pouvait pas s'exprimer s'exprimer publiquement à l'intérieur de l'Italie, sans être immédiatement exilé, ce qui a été le cas de Pavese et de beaucoup, de Carlo Levi, de beaucoup d'écrivains qui, à partir du moment où ils s'exprimaient politiquement contre le fascisme, du jour au lendemain, ils ne pouvaient plus écrire. Ça, c'est certain, ils ne pouvaient plus publier. Moravia, c'est vrai, ça a été sa grande faiblesse, n'a pas poussé le courage jusque-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ait changé le contenu de ses textes. Ce serait très gênant s'il avait changé le contenu même de ses livres. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Quand il a écrit La Mascherata, par exemple, c'est une critique évidente de Mussolini, même si le roman est situé au Mexique. Il décrit un dictateur mexicain, mais c'est évident que c'était une charge du fascisme. Donc, évidemment, le livre a été publié, personne n'en a parlé, c'était un échec total puisque la presse n'avait pas le droit d'en rendre compte, mais quand même, Moravia l'a fait. Ou Agostino qui raconte, là, ce n'est pas un livre politique, mais c'était un livre dérangeant pour le régime parce qu'il décrivait la sexualité d'un enfant sortant à peine de l'adolescence, et c'était le type même d'un sujet. De sujets qui étaient absolument scandaleux dans un régime, pour un régime fasciste. Parler de la sexualité d'un enfant, en plus avec un adulte, il assiste à une scène sexuelle de sa mère. Bon, c'était des scènes qui étaient inadmissibles pour le moralisme du régime. Donc, moi, bien sûr, je défends Moravia. Je veux dire que je pense que il n'a pas été un homme politique courageux, ça fait aucun doute, avant la guerre, mais il n'a pas du tout été collaborateur, ça absolument pas. Quand il a écrit Le Conformiste en 1950, on lui a reproché également parce que Moravia n'a pas raconté l'histoire de l'assassinat de ses cousins. Le conformiste, je vous rappelle, c'est donc le portrait d'un homme qui assassine un antifasciste, un opposant au fascisme, mais le personnage même de l'opposant au fascisme, qui est le professeur Quadri dans le roman, n'est pas son cousin Rosselli, enfin les deux cousins Rosselli. C'est un autre personnage que Moravia a inventé, et le personnage auquel il s'intéresse n'est pas tellement la victime que l'assassin. Et il fait un portrait de l'assassin, qui est un portrait extrêmement ambigu, mais parce que Moravia ne fait pas un livre politique, il n'exprime pas dans le roman sa position politique. Il écrit un roman, et dans un roman, Moravia l'a toujours dit, il ne s'agit pas de défendre une thèse, il s'agit de représenter des contradictions qu'il y a chez les individus. Et donc la victime finalement est un personnage ambigu, c'est pas le bon. Ce n'est pas du tout ses cousins Rosselli qui étaient des personnes vraiment héroïques, très nobles. Il a fait un personnage beaucoup plus ambigu du professeur antifasciste, et il a fait de l'assassin un personnage encore plus complexe, parce qu'il en a fait un homme qui aurait été approché sexuellement dans son enfance, par un homme, qui aurait donc une espèce de complexe du fait qu'il aurait eu ce rapport, cette tentative de rapport sexuel avec un homme, et qui aurait assassiné cet homme. Or, on s'aperçoit à la fin du roman qu'en réalité, il ne l'a pas assassiné, que c'est un fantasme qu'il a construit. Donc, Moravia s'est aventuré dans une zone, vous voyez, qui n'était pas du tout une zone uniquement politique, qui est une zone beaucoup plus ambiguë, mais ça, c'est justement ça la particularité de Moravia.
Il se refuse, de toute façon, il le dit très clairement, sans cesse, à s'aventurer dans le roman, dans des zones politiques, dans la mesure où il y aurait une sorte de manichéisme, finalement.
Voilà. C'est-à-dire que Moravia a toujours divisé deux activités dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a son activité d'intellectuel qui s'exprimait dans les journaux de reporters, où là, il s'exprimait très directement, et son activité d'artiste, de romancier. Et dans le roman, il ne voulait absolument pas défendre des thèses. Il a toujours été très hostile aux romans idéologiques, aux romans à thèse, aux romans engagés. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il s'est peu à peu écarté de Jean-Paul Sartre, dont il a été très proche après la guerre.
Oui, le rapport est inévitable entre, enfin, le rapport que nous posons, qu'on va poser forcément en lisant Une vie de Moravia, est évidemment inévitable avec Sartre, et en même temps, il y a d'énormes, énormes différences. Enfin, il est inévitable parce que il y a quand même l'aspect de la déréalisation aussi dans ses romans. Donc, on a parlé d'existentialisme. Il s'est d'ailleurs toujours défendu d'avoir été existentialiste après Sartre, puisqu'il dit que c'est lui qui avait commencé à parler de cette espèce d'absence de contact avec le réel, disons comme ça. Et puis ensuite, plus tard, il y a la revue Nuovi Argomenti, qui est quand même qu'on compare au temps moderne, qui est peut-être un peu inspiré des temps modernes, mais qui est très différente. Ils sont très différents, de toute façon, beaucoup d'égards.
Oui, il y a beaucoup de points communs entre Sartre et Moravia. Il y a le couple, puisque Moravia était marié à un écrivain, un très grand écrivain, qui était Elsa Morante. Évidemment, on pense au couple Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Ils ont été tous les deux tous les quatre de grands voyageurs. Ils ont beaucoup observé, analysé, notamment le bloc soviétique, entre autres. Et ils ont donc été très proches après la guerre, où Moravia venait très souvent en France. Moravia parlait couramment français, hein. Il avait été élevé par une gouvernante nîmoise, donc le français était sa deuxième langue. Moi, j'ai jamais parlé italien avec Moravia, on parlait uniquement français, il parlait très très bien. Et donc, Sartre, il l'admirait beaucoup, mais comme tu l'as dit, il adorait rappeler qu'il avait écrit Les Indifférents 10 ans avant La Nausée et avant L'Étranger, puisqu'on a toujours fait le rapport Étranger de Camus, Indifférent et Nausée. Et il admirait tellement Sartre qu'il a même traduit un chapitre de La Nausée, enfin le passage le plus connu, le passage de l'arbre du marronnier. Et il a fait d'ailleurs une très très bonne traduction en italien, mais ils se sont séparés au moment où Sartre avait voulu fonder un parti politique et c'était au début des années 50 et Moravia a commencé à participer et puis s'est détaché parce qu'il commençait, Moravia, à critiquer l'alliance avec l'URSS. Et alors que, comme vous le savez, Sartre a mis beaucoup plus de temps à prendre des distances avec le stalinisme, alors que Moravia l'a dénoncé immédiatement, tout de suite. Il s'est rendu compte qu'il y avait un très très grand danger dans le stalinisme, et tout en étant lui-même très sympathisant communiste, hein, mais il a vu tout de suite qu'une idéologie à ce point revendiquée dans un pays et envahissant à ce point la littérature, c'était un immense danger. Et donc l'éloignement des deux couples, et en particulier de Sartre et de Moravia, s'est fait, et je cite pas mal Simone de Beauvoir dans ses mémoires, où elle est de plus en plus ironique à l'égard de Moravia, de plus en plus distante, et on sent qu'il y a eu peu à peu une antipathie entre les deux, entre Moravia et Sartre, enfin surtout entre Beauvoir d'ailleurs et Moravia.
En effet, il y a une énorme différence dans les comptes rendus, si l'on peut dire, dans le regard de disons Sartre-Beauvoir, parce que là vraiment ils se rejoignent, et de Moravia seul du reste, parce que Elsa Morante, j'ai l'impression, ne parle pas des pays qu'elle traverse. Enfin, je suis pas sûre d'ailleurs qu'elle ait toujours été là.
Elle était en Inde avec lui. Elle était en Amérique du Sud. Oui. Non, ils ont voyagé ensemble quand même.
Mais bon, c'est pas son truc, on va dire. Moravia est d'une pertinence extraordinaire. Il ne se trompe pas. Il est d'une très très grande lucidité, qu'il dit d'ailleurs largement inspiré par son expérience du fascisme, par rapport aux sociétés totalitaires. Et même autres, enfin, dans lesquels qu'il visite. C'est très très étonnant, parce que pendant toute sa vie, je crois qu'il n'y a pas eu un moment où il se trompe. Il ne se laisse pas prendre par l'URSS, il ne se laisse pas prendre par le mirage cubain, le Vietnam, on y reviendra, c'est encore autre chose. Là, c'est pas un pays qu'il visite, mais au moment de la guerre du Vietnam, il est évidemment de cœur avec les Vietnamiens, mais a extrêmement peur de l'effet de la libération, en fait, de ce que ça va donner. Ensuite, l'Iran, enfin, on reviendra peut-être sur tout ça. Donc, il y a une très, très grande différence, en effet, même une divergence complète entre les regards extrêmement et très très facilement séduits de Sartre et Beauvoir et le regard de Moravia. Mais le fait d'avoir parlé de ces deux couples peut-être peut nous amener justement à parler du premier couple officiel, on va dire, de Moravia, c'est-à-dire avec Elsa Morante, qui est une immense romancière et un être à la fois poétique et invivable. Et tu peux peut-être dire un mot de leur rapport, parce que c'est quand même quelque chose qui a duré très longtemps.
C'est étrange, parce que Moravia était un homme qui aimait les femmes, qui était très sentimental, et qui a eu beaucoup, bon, je raconte les différentes histoires sentimentales qu'il a eues, avec du moins celles dont j'ai retrouvé les traces, parce qu'il y en a eu beaucoup plus. Et en même temps, il était très hostile à la famille. Et donc, l'idée qu'il se marie était une chose étrange, parce que au fond, il a tellement, tellement critiqué la famille et le couple qu'on pouvait être étonné. Il a épousé Elsa Morante, qu'il a rencontrée en 1936, donc ils étaient tous les deux très jeunes, et il a été complètement fasciné par elle. Elle-même était très amoureuse de lui, et lui a toujours dit, elle est amoureuse de moi, c'est vrai, mais moi je ne suis pas amoureux d'elle, mais je l'aime. Et il faisait la distinction entre être amoureux, ça sous-entendait en réalité être très possessif, C'est ça, que parce que c'était en effet ce dont il souffrait de la part d'Elsa Morant, et que, alors que lui avait une admiration, un besoin d'intimité réelle avec elle, et une immense admiration pour elle, ça c'est certain. Ils se sont mariés à l'église, ce qui est aussi une chose étrange, puisqu'ils étaient tous les deux juifs, lui par son père, donc pas juif au sens strict, mais enfin quand même, elle était juive par son père et sa mère, et ils ont été en plus mariés par le conseiller du pape, ce qui était et qui faisait le lien, pardon, entre le pape et le régime. Donc c'était un personnage très douteux apparemment, mais en réalité, et ils ont été mariés à la Chiesa del Gesù, c'est-à-dire l'église jésuite de Rome. Donc tout ça, inutile de dire, a été raillé. Mais en fait, c'était très habile de la part du prêtre qui les a mariés, parce qu'en fait, deux juifs qui se mariaient à l'église catholique pouvaient être sauvés. C'était extrêmement important pour en Italie. Et le fait que la chose soit visible,
publique,
les protégeait. En réalité, les a protégés tous les deux. Cela dit, Elsa Morant était profondément religieuse. Hein. Ce n'était pas un théâtral de sa part. Moravia l'a fait par amour pour elle, ça fait aucun doute. Et leur relation est devenue particulièrement intense, difficile, mais particulièrement intense pendant la guerre. Puisqu'en 1943, ils se sont mariés en 1941. En 1943, ils partent tous les deux dans le Latium, enfin à Fondi, au moment où l'armée allemande envahit Rome, et où là, vraiment, ils risquaient gros tous les deux. Ils risquaient d'être déportés, tout simplement, puisqu'ils partent en septembre de Rome, et le 13 octobre 1943, c'est la grande rafle de Rome où beaucoup de juifs ont été déportés. Donc ils ont échappé, heureusement, à la déportation.
On leur a dit de fuir, d'ailleurs.
On leur a dit de fuir. Oui. C'est un ami suédois qui leur a dit, surtout, vous partez. Et donc ils sont partis tous les deux. Et le lien a été très fort. Bon, Moravia raconte cette histoire dans la Ciociara. Il raconte pas sa fuite avec sa femme, mais il raconte le séjour qu'ils ont fait tous les deux en inventant un personnage, qui est le personnage de la Ciociara, qui s'appelle Cesira, et de sa fille. Il ne met pas un couple d'intellectuels, mais il met une femme populaire et sa fille. Mais en fait, c'est bien son expérience qu'il raconte dans la Ciociara. Et Moravia, je pense, quand leurs relations sont devenues très difficiles avec Elsa Morant, on a dit, mais pourquoi vous ne vous séparez pas? Et ils n'ont jamais voulu se séparer, parce que je pense que Moravia a été infiniment reconnaissant au courage de Elsa Morant, qui est retourné à Rome pour aller chercher des affaires, des vêtements, et donc a risqué énormément pour le couple, pour eux deux. Et donc je pense qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement fort qui s'est passé à ce moment-là.
Tu dis d'ailleurs à un moment du livre que Moravia déclare que Elsa n'est, enfin que les choses ne sont possibles qu'avec Elsa, que quand elle se comporte de façon sublime.
Oui, c'est vrai. Mais oui, parce qu'il ne supportait pas la vie quotidienne avec elle. Et puis, il y a un autre problème.
C'est les écrivains.
Oui, bien sûr, deux écrivains ensemble. Et puis un autre problème qui était la notoriété de Moravia, qui était très grande par rapport à celle de Elsa Morant, qui a été plus longue à s'établir, alors que Moravia et Elsa Morant, tous les deux, savaient pertinemment que le grand écrivain, c'était elle. Et moi, c'est la première chose que Moravia m'édite quand je le suis allé le voir à Rome. Elsa Morant était encore vivante, et il allait la voir, elle était dans une clinique, elle avait tenté de se tuer, c'était complètement dramatique. Il allait la voir tous les jours dans la clinique, et il m'a dit, vraiment, une des premières choses, il m'a dit, le grand écrivain, c'est elle. Et il n'y a pas qu'à moi qui l'ai dit, il l'a dit très très souvent. Il avait une admiration immense pour Elsa Morant, et donc... ça, évidemment, ça rendait leur rapport à la fois nécessaire et extrêmement compliqué. Heureusement, Elsa Morant a eu, après la guerre, assez rapidement un très très grand succès avec Mensonges et Sortilèges, et puis après avec L'île d'Arturo et bien sûr La Storia. Mais ça, c'était beaucoup plus tard.
Le fait que tu aies parlé de leur couple me fait penser à plusieurs choses, c'est-à-dire finalement au roman et à leur couple et de la Chochara, parce que bon, d'une part, là aussi c'est un moment très déterminant dans l'existence de Moravia. Par exemple, bon, ça je fais une parenthèse, il y revient justement à propos du Vietnam en disant que ce qui l'a engagé du côté des Vietnamiens finalement, c'est ce qu'il avait connu pendant la guerre, l'expérience qu'il avait eue d'être obligé de fuir, d'être sous les bombes, etc., et de vivre de manière très très pauvre pendant la guerre. Bon, ça c'est une première chose, mais surtout je pensais au roman et à deux choses qui sont intéressantes, je trouve, dans le, comment dire, le processus créatif chez Moravia, c'est-à-dire par rapport à l'autobiographie, la manière de procéder à une autobiographie, enfin d'insérer des éléments autobiographiques mais de façon à la fois différée et transposée toujours, et ça c'est très typique justement dans la Chochara, puisque le couple homme-femme, enfin oui, homme-femme devient couple mère-fille, ce qui est quand même assez étonnant, et parce qu'il écrit le livre bien après le moment où, enfin plusieurs années en tout cas après le moment où il vit ce qu'il raconte. Voilà, donc ça peut-être tu peux
mais, oui, parce que en effet Moravia disait, on l'a dit tout à l'heure, qu'il détestait son passé. Il disait souvent qu'il était romancier parce que son moi MOI l'ennuyait, et finalement moi évidemment en tant que biographe, j'ai traqué dans les livres de Moravia ce qui me semblait être lié à sa vie, sans faire caricaturalement une enquête. Mais simplement, c'est vrai que finalement, Moravia a beaucoup écrit sur lui-même, mais de manière toujours transfigurée. Donc, comme tu disais, la Chochara est un exemple typique, c'est-à-dire qu'il écrit la Chochara il publie la Chochara en 1957, c'est-à-dire 14 ans après les événements qui se sont produits, et ce livre qui est un très grand livre sur la guerre, bien, même s'il parle, il parle d'une expérience vraiment vécue, il n'en parle pas comme, donc il ne met pas en scène deux intellectuels en cavale, mais une mère et une fille. Donc il se sert de son expérience pour décrire autre chose qui l'intéresse également, qui est le rapport entre une mère et une fille. Mais la fille, Rosetta, a beaucoup de traits de Elsa Morante. C'est une fille religieuse qui a des élans spirituels, et ça c'était vraiment Elsa Morante. Mais là il le présente dans les traits d'une petite fille, d'une toute jeune fille. C'est tout à fait évidemment différent. Mais il y a des épisodes qu'il avait racontés de manière directe pendant la guerre, par exemple l'épisode de la lecture de la Bible. Il raconte qu'il a pour essayer de communiquer avec les paysans, il leur lit la Bible et il essaie de leur faire commenter la Bible, et puis il se désintéresse complètement, les paysans ne l'écoutent pas, et cet épisode se trouve dans la Chochara. Il le fait dire par un autre personnage, il s'est divisé en plusieurs personnages bien sûr dans le roman, et ça c'est très très frappant. Et bien sûr, bon, dans tout le reste de sa vie, on s'aperçoit qu'il a utilisé des épisodes vécu, mais en les réinventant complètement. Par exemple, le mépris qu'il écrit en 1954, on a dit c'est le rapport qu'il avait avec Elsa Morante. Bien sûr, c'est pas ça, parce que le personnage de Brigitte Bardot n'est pas du tout une romancière intellectuelle. C'est une fille très belle qui est complètement perdue et face à un intellectuel qui est torturé et qui se sent humilié. Mais il a utilisé quand même une partie de son expérience, parce que en effet il était scénariste pendant la guerre, comme il ne pouvait pas publier sous son nom quand les lois raciales sont devenues encore plus sévères, il ne pouvait même plus publier, son nom ne pouvait plus apparaître, et donc il a fait des scénarios non crédités pendant la guerre, et il en a terriblement souffert, il s'est senti terriblement humilié, et ça on le retrouve dans le personnage de Piccoli dans le film, enfin dans le film de Godard, et dans le roman bien sûr, mais c'est complètement réinventé. De même Agostino par exemple, qui est moi bien sûr un des livres que je préfère de Moravia, on sait qu'il s'est inspiré de son enfance à Viareggio, où il a découvert, il l'a dit dans des interviews, que ça se réfère à un certain été qu'il a passé à Viareggio. Il était d'ailleurs avec Mario Soldati, le cinéaste et écrivain, qui était un de ses meilleurs amis, et il a vécu, pas exactement ce qui est raconté dans Agostino, mais il s'est servi, bien sûr, de ça. De même, dans le roman que j'ai traduit posthume, Les deux amis, qui est paru il y a 2 ou 3 ans, qu'on a retrouvé dans les papiers de Moravia, il est certain qu'il décrit son rapport avec Malaparte, hein, mais en réinventant quelque chose qui n'est pas exactement... le personnage n'est pas Malaparte, ni lui, ni l'autre, Maurizio, n'est pas Moravia. Et puis dans Le conformiste, bien sûr, comme je vous le disais, il a pris l'épisode familial, qui est l'assassinat de Rosselli, pour en faire tout à fait autre chose.
Oui, et d'ailleurs, je pensais une chose aussi à propos de la Ciociara, c'est que non seulement c'est un rapport mère-fille, mais en plus il se met dans la tête d'une femme qui est une femme très simple. Oui. Donc, c'est, en effet, c'est encore une transposition supplémentaire.
Parce qu'il est, à partir d'un certain moment, il utilise uniquement la première personne du singulier. Pratiquement tous ses livres sont à la première personne, et il y a beaucoup de narratrices. Il y a la Ciociara, donc, qui est une femme simple, c'est une épicière, hein, qui raconte. Et ça, c'est une prouesse de la part de Moravia d'entrer dans la tête d'une femme extrêmement simple, très intelligente, mais qui n'a pas des moyens d'analyse intellectuelle, mais qui a une faculté d'observation très grande et dans un style très, très simple, très, très crédible. De la part d'une femme simple, et il y a une vie extraordinaire. Pratiquement tous les nouvelles romanes, les racconti romani, sont écrits à la première personne, avec des niveaux de langue extrêmement divers selon les personnages. Donc quand il utilise cette première personne ou dans la romane qui raconte l'histoire d'une prostituée. Qui est le premier grand livre qu'il écrit après la guerre, et où il entre dans la tête d'une jeune prostituée. Et là aussi, c'est un très grand tour de force, parce qu'il ne raconte pas uniquement la vie d'une prostituée. Il se sert de cette fille pour décrire tous les niveaux sociaux, évidemment des clients de la prostituée. Il voit tous les types de rapports que peut avoir la prostituée avec l'Italie de l'après-guerre. Et donc le livre a eu un très très grand succès. Bon, il y a eu le film, bien sûr, avec Gina Lollobrigida, mais qui a beaucoup accru la notoriété mondiale de Moravia. Mais le livre déjà était extrêmement frappant parce que Il se servait de quelque chose qui était dérangeant quand même, la vie d'une prostituée, pour faire une critique de la vie sociale de l'après-guerre.
Tu as cité 3 livres au moins de Moravia, La Ciociara, La Romana et Le Mépris, qui ont servi dont on a fait des films. Et peut-être on pourrait parler un peu justement du rapport de multiforme de Moravia au cinéma, puisque tu as évoqué son travail de scénariste qui ne le satisfaisait pas, et puis le fait que lui-même, que beaucoup de ses livres aient été transposés au cinéma, et enfin les analyses de films qu'il a fait qui sont absolument remarquables.
Oui, le cinéma a été tout de suite très très important pour Moravia. D'abord, oui, parce qu'il était scénariste pour des raisons alimentaires, pour pouvoir survivre quand il ne pouvait pas signer et quand il ne pouvait pas vivre de ses livres, mais aussi parce que ses romans se prêtaient extrêmement bien à l'adaptation cinématographique. On s'est rendu compte, on a voulu faire nous avons fait un hommage à la Cinémathèque il y a un mois, et on pensait consacrer 2 jours à une rétrospective Moravia, et finalement on s'est rendu compte qu'on pouvait faire 15 jours. Donc c'est pour dire la quantité de livres qui ont été adaptés. et de grands films, des films importants. Bon, il y a Le Mépris, il y a Le Conformiste. Mmh. Bon, il y a eu beaucoup de films très importants. Moravia, en fait, se prêtait très bien à l'adaptation cinématographique parce qu'il était extrêmement visuel, très clair. Il avait une manière c'est un très bon dialoguiste, et il avait une manière de créer des situations à la fois psychologiques entre interindividuelles, entre des personnages, et de les ancrer dans la société, ce qui sont des ingrédients absolument fondamentaux pour un bon scénario. Et donc, c'est pas étonnant, finalement, que La Romana ait été adaptée, et La Ciociara, donc, c'est le chef-d'œuvre de De Sica, il était adapté d'ailleurs deux fois, et Le Conformiste, et que c'est autant inspiré
les cinéastes.
Ouais. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le Mépris, là, tout à l'heure, et vous savez que Godard disait que le Mépris était un roman de gare, et que c'est pour ça que ça avait fait un bon film. Et on, bien sûr, tout le monde a répété ce mot à Moravia, mais Moravia n'a pas protesté. Il a dit, de toute façon, Godard est un très grand cinéaste, et il avait une très grande admiration pour le film de Godard, et il a tout à fait accepté les transpositions de Godard. D'ailleurs, l'intelligence de Godard est éclatante, parce que, par exemple, la scène la plus connue du Mépris, qui est la scène où Bardot, qui est au début, la scène où Bardot est nu sur le lit et interroge Piccoli en disant toutes les parties de son corps, est un dialogue de Moravia. On croit que c'est écrit par Moravia, mais en fait, c'est pas dans le roman. C'était une scène qui a été ajoutée par c'est Carlo Ponti, le producteur, qui après avoir vu les premiers rushs du Mépris, a trouvé que ça manquait de scènes de sexe. Parce qu'il y avait Bardot quand même, et donc on a demandé d'ajouter une scène de nudité, et c'est cette scène extraordinaire qui d'ailleurs n'est pas une scène qui n'est pas gênante, et c'est totalement l'esprit de Moravia, même si c'était écrit par Godard, en fait. Mais tu disais aussi que c'était un très grand critique.
Oui,
un très grand critique. Moravia a tenu une chronique de critique de cinéma de la guerre à sa mort, c'est-à-dire pendant 45 ans. Et donc, avec au moins un film par semaine. Donc, vous faites le calcul, ça fait beaucoup, beaucoup d'articles. Et j'ai traduit une partie de ces articles, d'ailleurs, en français. Et c'est une vision du cinéma qui est extrêmement passionnante. Dans mon livre, je pose la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu une rencontre plus forte entre Antonioni et Moravia, parce que Antonioni et Moravia sont probablement les deux artistes les plus proches. Et en fait, en effet, Moravia avait une très grande admiration pour Antonioni, et c'était réciproque, mais Antonioni n'a jamais adapté un roman de Moravia. Par contre, Pasolini devait adapter l'attention, mais il ne l'a pas fait, finalement.
Oui, le cinéma, donc, ça, c'est quelque chose de manifestement très important pour lui. Peut-être tu pourrais parler aussi de la peinture, puisque, en réalité, il aurait souhaité peindre. Et la peinture et la poésie aussi, tu disais.
Oui, parce que, bien que Moravia était un très grand romancier, il ne se pensait pas lui-même grand artiste. Il pensait qu'il voulait faire de l'art. Il pensait qu'il avait une démarche d'artiste, mais lui-même mettait l'art plus haut que sa propre production. Et il disait toujours qu'il trouvait ses romans ratés, ses romans mauvais, qu'il n'avait jamais écrit au niveau où il aurait aimé écrire. Et on savait que pour lui, l'écriture suprême, c'était la poésie. Et que c'était une des raisons pour lesquelles il admirait autant Pasolini.
Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Oui.
Et la
peinture, donc,
oui.
Excuse-moi.
Oui, oui, bien sûr.
La peinture, le père de Moravia était peintre, il était architecte, mais il était peintre enfin, dilettante, bien sûr, mais d'aspiration. Il aurait aimé être un peintre. Et il faisait des aquarelles qu'il allait peindre à Venise, parce qu'il était vénitien et il partait de sa famille régulièrement. Il allait s'isoler, retrouver un ami à Venise, et il peignait et rapportait des tableaux de Venise. Et la sœur de Moravia était peintre, Adriana Pincarle. Et Moravia a énormément écrit sur la peinture. Il était tout à fait, enfin, constamment entouré de peintres qu'il aimait beaucoup. Et il y a beaucoup, beaucoup sur Cremonini, sur Guttuso. Il a beaucoup écrit sur les peintres, sur Picasso. Il a écrit des textes très, très beaux sur Picasso. Donc c'était quelqu'un pour qui l'expression picturale était extrêmement importante. Et La Noye a d'ailleurs l'ennui. Oui, a pour protagoniste un peintre.
Il était entouré d'artistes divers. En fait, on se rend compte que s'il a refusé la famille, il y avait autour de lui ce qu'on peut appeler un clan, même si ça ne fonctionnait pas comme un clan, mais beaucoup d'artistes, d'écrivains. Il y a beaucoup de grandes figures autour de Moravia, que ce soit au départ Malaparte, et ensuite évidemment Elsa Morante, et Pasolini, et puis d'autres.
Mais c'est-à-dire, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce livre, parce que je savais que ce ne serait pas un livre sur une personne, mais ce serait un livre sur quelqu'un qui était au centre de mouvements constants. Quand il est parti, Moravia n'a jamais été seul. Lui qui se plaignait énormément de l'ennui et de la solitude était quelqu'un qui vivait toujours ou avec une femme ou en groupe. Enfin, mais il n'a jamais même vécu matériellement seul dans un appartement. Il y avait toujours quelqu'un qui partageait son appartement. Il n'y a pas eu de moment creux. Il a vécu avec Dacia Maraini au moment où il s'est séparé de Elsa Morante, et il a vécu avec Carmaniera, sa dernière femme, quand il s'est séparé de Dacia Maraini. Mais par ailleurs, il vivait dans des groupes. Quand il est allé en son premier grand voyage, il l'a fait en Angleterre, donc après avoir écrit Les Indifférents et avant d'écrire Les Ambitions Perdues, et il est parti avec un groupe de peintres, dont Carlo Levi. Et donc il a été immédiatement inséré dans le groupe de Bloomsbury. Il a rencontré à ce moment-là tous les grands écrivains de Bloomsbury, pas Virginia Woolf, mais Lytton Strachey, entre autres. Il a découvert toute une littérature qu'il ne connaissait pas jusque-là, notamment Joyce et T.S. Eliot, qui ont eu énormément d'importance pour lui. Et au fond, il a toujours... sa vie a toujours fonctionné comme ça. Et bon, à la fin de sa vie, bien entendu, il a été très très lié au groupe de Pasolini, Laura Beatty, enfin bon, ils étaient absolument inséparables. Ils ont voyagé tous les voyages jusqu'à la mort de Pasolini, jusqu'en 1975, et ils ont toujours voyagé ensemble. Entre 1960 et 1975, Moravia et Pasolini ont fait tous leurs voyages ensemble. C'est une chose quand même assez surprenante, mais qui n'est pas si étonnante que ça, parce que malgré la notoriété de Moravia, il ne se pensait pas lui-même comme singulier. C'est ça qui moi aussi m'intéressait beaucoup, le fait qu'il ne se construisait pas comme un grand écrivain singulier. Ce qui comptait pour lui, c'était d'observer et d'exprimer, mais pas de se poser en tant que grand écrivain ou grand artiste. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de malentendus. On a cru que Moravia était un homme de pouvoir, qui était un manipulateur. La presse du vivant de Moravia était très très violente contre lui. C'était quelqu'un qui était très détesté par les médias. Et Moravia se défendait, bien entendu, parce qu'il avait l'impression qu'on lui faisait un procès qui ne convenait pas à sa personne.
C'est pour ça que quand je parlais de clan, il faut mettre des guillemets, c'était un clan dans le sens où c'était un groupe, mais pas un clan dans le sens où ils auraient exercé un pouvoir.
Non, c'était en plus, ce n'était pas du tout la volonté de Moravia de manipuler une opinion.
Voilà.
Absolument, jamais.
Et c'est vrai que l'aspect, pour employer un mot qu'on emploie que trop, choral de ton livre est tout à fait intéressant aussi. Enfin, pour moi, qui, aussi, de la même façon que toi d'ailleurs, suis a priori plus sensible à quelqu'un comme Pasolini. Bon, ça, le fait que Moravia ait rencontré et donné beaucoup d'importance à des personnes extrêmement intéressantes et importantes aussi d'un point de vue artistique et littéraire dans sa vie, te permet aussi de leur donner de l'importance. Et du reste, il y a beaucoup de pages qui sont consacrées à Elsa Morante ou à Pasolini. Et par exemple, lors d'un voyage qui est le voyage en Inde, d'un des voyages en Inde en tout cas, tu fais même une comparaison entre ce qu'ont écrit d'un côté Moravia et de l'autre Pasolini, pour montrer à quel point leurs regards étaient quand même différents sur des mêmes points.
Enfin, oui, sur des mêmes points. Bien sûr, non, parce que d'abord, ils avaient deux tempéraments très différents.
Oui, voilà.
Pasolini était un artiste et vivait sa vie comme un artiste. Donc, quand il voyageait, il voulait avoir des expériences extrêmement fortes, des expériences personnelles. Et il s'en servait déjà pour les films qu'il pensait faire. Donc il était en train de se constituer une esthétique. Quand il allait en Inde, le voyage en Inde a été déterminant pour Pasolini. C'était son premier grand voyage dans le tiers-monde. Et on sait l'importance que ça a eu pour les films par la suite de Pasolini. Alors que Moravia était simplement un observateur de la différence. Il voulait observer d'autres cultures pour relativiser la sienne. C'était tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il allait en Inde, il allait en Chine, ou il allait en Amérique du Sud pour avoir des points de comparaison par rapport à l'Italie. Et après, bien sûr, l'Afrique. L'Afrique pour avoir une alternative à l'Europe. Mais ce qui comptait pour lui était de comparer des cultures, et alors que Pasolini cherchait un idéal, c'était tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'il avait besoin de se fondre dans une autre culture qu'il finissait par reconnaître comme plus profondément la sienne. Je pense qu'il se trompait, malheureusement, oui. Pasolini. Oui. Mais il pensait que sa culture était plus profondément au Yémen, au Maroc, ou en Inde.
Il cherchait aussi la reconstitution d'un idéal paysan, peut-être, de sa jeunesse.
Alors là, il y avait une très très forte divergence d'opinion entre Pasolini et Moravia. Moravia était exaspéré que Pasolini dise que la culture paysanne était une culture pure et idéale. Et pour Moravia, c'était l'horreur. Pour lui, au contraire, la culture paysanne, il disait, c'est l'anticulture. C'était comme si on niait une histoire. Et il pensait que au contraire, vouloir survaloriser une culture qui n'était pas complètement développée, oui. C'était un très très grand danger. Ils ont eu d'ailleurs beaucoup de divergences aussi à propos de l'éducation, par exemple, où Pasolini finissait par avoir des déclarations absurdes en disant qu'il fallait arrêter l'école, que l'école produisait une culture de masse, une dépersonnalisation. Et Moravia était évidemment outré en disant, si on arrête l'école, on va figer une société dans ce qu'elle a de plus caricatural. L'école est, bien sûr, pour la plupart, la condition de l'acquisition d'une culture.
Le temps passe et comme il y a énormément de choses dans le livre, peut-être on peut... Enfin, d'abord, évidemment, si vous voulez poser des questions, c'est possible, mais on peut peut-être dire un mot du coup des voyages, de ce moment de la vie de Moravia où il bascule plus ou moins quand même, la littérature passe presque au second plan par rapport aux témoignages qu'il porte sur des pays, sur une situation politique ainsi de suite. Et bon, son opposition au terrorisme aussi, bien sûr. Moi, j'aurais voulu qu'on dise un mot de ça et puis aussi qu'on parle de son horreur du nationalisme qui a quand même, qui était un point absolument central dans ses positions, j'allais dire politiques, devant tous les pays, dans tous les pays qu'il visitait.
Enfin, ça, je vais être très, très rapide parce que peut-être il est
oui.
un peu tard.
Oui.
Simplement, oui, Moravia a été un observateur politique très, très aigu à la fin de sa vie, et pas uniquement de l'Italie, mais aussi des pays étrangers, en
oui.
effet, de plus en plus de l'Afrique. Pour revenir sur le point précis du nationalisme et du terrorisme, c'est vrai que Moravia avait une haine du nationalisme qui lui a fait nuancer ses jugements, par exemple, sur le conflit du Moyen-Orient. Parce que Moravia, juif, était très antisioniste, était tout à fait hostile à la constitution de l'État d'Israël, dans les conditions où l'État d'Israël a été constitué, bien entendu, il n'était pas opposé à l'idée d'un État d'Israël, mais cet État tel qu'il existait. Et donc, il avait une sympathie très forte pour le mouvement palestinien, mais tout de suite, il a vu le danger. Il a vu le danger du panarabisme, c'est-à-dire qu'il a vu qu'il y avait un nationalisme arabe qui était en train de se constituer face au nationalisme israélien, et que c'était terriblement dangereux. Et en effet, ça aboutit à l'impasse où on est actuellement, et qui a été tout de suite dénoncé par Moravia. Et pour ce qui est du terrorisme, il était sans aucune réserve hostile à toute forme de terrorisme. Bien sûr, il a dénoncé les actions terroristes d'État, par exemple la réaction à Munich. La réaction d'Israël à l'attentat de Munich a été très très violente de la part de Moravia, parce qu'il a dit l'État est en train de répondre au terrorisme par les mêmes armes, mais il reprochait au terrorisme d'utiliser des armes dictatoriales, c'est-à-dire totalitaires, c'est-à-dire qu'il disait un terroriste qui met une bombe sans se préoccuper de savoir qui va être la victime, agit comme n'importe quel État totalitaire. Donc là-dessus, il était très proche de Pasolini, hein, qui avait absolument la même attitude. On m'a demandé récemment s'il était vrai que Moravia avait signé la défense de la bande Abader, et bien sûr, c'est impossible. Au contraire, il a écrit des textes très très violents contre la bande Abader.
Là encore, il a été complètement opposé à Sartre, justement.
À
de
Sartre
ce point
et
de
à Jean Genet.
Et à Genet, oui.
Et à Genet, dont il était proche pour d'autres raisons.
Oui.